Les neurologues ont découvert à l'intérieur du cerveau qu'une mémoire formée par la peur développe de petites épines sur les branches des cellules nerveuses. Chaque fois que vous repensez à un événement qui vous frustre ou vous attriste, vous développez plus d'épines et donc plus de risques de tomber malade. Fin de citation de Caroline Leaf, neurologue. Deuxième citation du même docteur, Caroline Leaf, qui est une neurologue très très connue en Afrique du Sud. Les pensées négatives sont biologiquement toxiques pour le corps. Et si ces pensées sont cultivées dans la mémoire de l'enfant, cela peut les conditionner pour la vie et handicaper leur apprentissage. L'enfant a même 30% de risque de développer un cancer à l'âge adulte. Fin de citation. Le docteur Caroline Leaf ajoute encore, le cortisol est une hormone libérée dans le cerveau quand il est stressé, frustré ou lorsque vous avez des pensées négatives. Cela cause le rétrécissement des branches de cellules nerveuses et une perte temporaire de mémoire. Un taux trop élevé de cortisol peut causer une perte de mémoire permanente. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission intitulée L'Afrique contre-attaque. Nous continuons avec notre thème, comment changer les mentalités et quelles sont les clés qui nous permettent d'arriver à cette finalité. Nous sommes ce que nous pensons. Nous l'avons déjà dit, vous l'avez déjà sûrement déjà entendu ailleurs, dans les réseaux sociaux, dans les médias. Nous sommes ce que nous pensons. Il est même écrit que garde ton cœur ou tes pensées plus que tout, car de là viennent les sources de la vie. Caroline Leaf est une neurologue, comme l'avons dit, très réputée, renommée, parce qu'elle a fait ce travail brillant sur le cerveau. Et son leitmotiv, sa théorie, ou du moins ce qu'elle a pris comme conclusion après de nombreuses recherches, on travaille avec beaucoup de patients qui avaient des problèmes au cerveau, que ce soit suite à un accident ou à toute autre cause. Elle dit que l'esprit de quelqu'un ou la pensée peut changer le cerveau. C'est ça son cheval de bataille, c'est ça son slogan à travers de nombreuses conférences. Je vous invite à s'intéresser à son travail. Il y a de nombreuses interviews qui sont malheureusement surtout en anglais, mais je pense que vous pouvez trouver les sous-titres, où elle parle beaucoup de cet aspect-là, comment est-ce que le cerveau peut être changé et comment est-ce que nos pensées peuvent être modifiées, que nous ne sommes pas victimes de notre biologie, mais que la manière dont nous pensons peut réellement affecter notre cerveau. Et cela amène à une branche de la science qu'on appelle la neuroplasticité, qui est extrêmement intéressante car cette branche-là de la science ou de l'étude du cerveau s'intéresse au fait que il y a des mécanismes dans le cerveau qui permettent au fait de modifier les processus de neurogénèse, c'est-à-dire la manière dont les cellules se forment ou naissent ou se développent. Et là, se fait soit par au fait l'apprentissage ou le développement naturel de l'être humain lorsqu'il est enfant, mais plus tard, au fil du temps que nous devenons des adultes, c'est l'apprentissage au fait qui peut influencer la plasticité neuronale. Je sais, le terme est un peu barbare, mais on devra se familiariser à ça, car c'est une des voies que nous allons explorer dans cette étude des changements de mentalité. Donc nous reprenons, ça s'appelle la plasticité neuronale. Il y a des vidéos très intéressantes sur le sujet, notamment par Caroline Leaf. Son nom de famille, Leaf, c'est L-E-A-F. Pourquoi nous intéressons-nous à ce sujet? C'est le fait que nous parlons beaucoup de changement de mentalité, mais il y a très peu d'outils que les Africains mettent en chantier afin de pouvoir conduire ce changement de mentalité-là. Loin de moi la pensée de dire que nous ne faisons rien, non, il y a beaucoup d'intellectuels qui travaillent là-dessus, mais là où nous devons plus innover, c'est au niveau de la pédagogie afin de pouvoir rendre ces connaissances accessibles. Car nous nous rendons compte que dans les réseaux sociaux, c'est plus le tam-tam autour des humanités classiques africaines, les Égyptiens étaient noirs, noirs, noirs. On en est fatigué un peu, car la mélanité de ces peuples-là a certes une valeur informative, c'est intéressant, mais quelle est la valeur pédagogique pragmatique par rapport aux problèmes que nous avons aujourd'hui? En quoi est-ce que cette mélanité résout les problèmes que nous avons au point de vue de la corruption dont nous avons parlé dernièrement, au point de vue de la mégestion, au point de vue des problèmes de santé que nous avons dans nos pays ou dans les communautés et dans le monde, car nous ne sommes pas simplement à centrer sur nous-mêmes, mais réellement à donner des solutions pour l'humanité tout entière. Nous savons que la plasticité neuronale est cette capacité à pouvoir changer notre cerveau par nos pensées, par l'apprentissage. Et nous croyons donc que les humanités classiques africaines, le savoir le plus ancien dans les communautés africaines, est cet apprentissage-là qui va au fait justement modifier notre cerveau afin que nous puissions aller vers ce changement de mentalité. Car nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs problèmes dans notre communauté, des problèmes de syndrome de Stockholm, des problèmes de perception de notre communauté. Et c'est par la plasticité neuronale, j'ai même du mal à le prononcer moi-même, c'est par la compréhension de ces principes, c'est par la compréhension même de la neuroscience que nous pourrons changer les mentalités. Car le mot-clé ici est mentalité, changer. Eh bien, Caroline Leaf est l'une de ces chercheurs-là, l'un de ces chercheurs, cette femme, cette dame, qui a en fait fait beaucoup d'avancées, et ce qu'elle a pu découvrir va nous permettre au fait d'explorer ce fascinant voyage de changement des mentalités. Loin de nous la volonté d'être ici des gourous ou un gourou, car vous savez, il y a tout un tas de livres, tout un tas de contenus qui sont là, qui promettent aux gens le changement en un tas record. Je crois que vous connaissez la fameuse légende qui dit que l'homme peut changer en 21 jours. Il y a des tas d'articles là-dessus, disons, ou la femme, que oui, en 21 jours, c'est suffisant pour changer un comportement. C'est un début, mais il faut toujours se dire que tout change, tout processus est une lutte constante contre soi-même. Ici, nous allons explorer non simplement les humanités classiques africaines, mais aussi les meilleurs ouvrages qui ont été écrits sur le changement de mentalité et sur le développement personnel. Nous allons mettre cela ensemble afin de pouvoir amorcer une nouvelle dynamique. Car disons-nous-le franchement, lorsque nous lisons ce genre d'ouvrage, les anecdotes ou les histoires qui sont souvent prises ne reflètent pas souvent nos propres réalités. Et nous devons toujours savoir comment les impliquer chez nous. Par exemple, nous parlons de management, nous sommes ici dans le volet économique, mais vous verrez que je ne suis pas allé directement dans l'aspect technique de la chose, mais nous sommes toujours dans l'aspect du comportement, des mentalités, car il faut bien comprendre quelle est la perception, quelle est la mentalité d'une population dans laquelle on veut par exemple injecter le capitalisme. Quelle sorte de capitalisme sera appliqué dans cette population? Serait-ce un capitalisme social? Serait-ce un capitalisme d'une voie assez innovatrice? Mais si ça doit être innovateur, qu'est-ce que l'on va utiliser? Le mot que je cherchais était communiste tout à l'heure. Va-t-on utiliser un capitalisme communiste? Les deux s'opposent. Y a-t-il moyen de mélanger? Ce sont des questions auxquelles les intellectuels doivent se pencher. Mais la première des choses, c'est d'abord de comprendre le peuple que l'on a en face de nous. Par exemple, dans les pays scandinaves, on sait que oui, il y a une sorte de capitalisme qui se manifeste. Il y a la libre entreprise, mais il y a aussi un fort socialisme. Par exemple, on dit qu'en Norvège, par exemple, ils n'ont pas de Bill Gates. Ou ils n'en auront pas parce que les riches sont taxés et ça doit être reversé à l'État ou à la population. Mauvais système, très bon système. Est-ce que ça empêche la créativité ou l'enrichissement personnel? Bon. En tout cas, dans le classement que nous avons vu dernièrement de Transparency par rapport à la corruption, ce pays-là est parmi les moins corrompus au monde. Mais regardez toujours aux autres, aux occidentaux. C'est parfois aussi, ressasser des mythes selon lesquels les autres sont meilleurs que nous. Alors que dans notre culture, dans notre histoire, nous avons vu dans le dernier podcast qu'il n'y a pas de prison en Égypte ancienne. Quelle est donc la mentalité, l'état d'esprit de ces personnes-là, les anciens Égyptiens, dont la culture est toujours la nôtre, il faut bien se le dire, à travers la langue surtout? Quel était leur état d'esprit? Quelle était leur pensée afin de ne pas mettre les autres au fer, de ne pas mettre les autres en esclavage? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. C'est là où l'étude de cette société est intéressante, car nous voyons qu'est-ce que ces gens faisaient et que nous ne sommes pas capables de faire. Avec nos Bibles, avec nos Corans, avec notre soi-disant modernité, notre technologie, nous sommes pires que ceux-là qui, soi-disant, sont des idolâtres, étaient des primitifs et n'avaient rien fait dans l'humanité. Après falsification, car nous voyons ici qu'il n'en est rien. Ces gens étaient des génies, car la Grande Pyramide, lorsqu'on s'y attarde, pour ceux qui n'ont pas suivi notre podcast sur la Grande Pyramide, je vous invite à vous lancer là-dessus, sur la pyramide de Khufu. C'est, je crois, le deuxième épisode de notre podcast, ou le troisième. Donc, vous pouvez les réécouter, c'est très édifiant pour savoir qui était ce peuple entreprenant qui s'est lancé dans l'un des défis les plus costauds et colossaux de l'humanité, à savoir ériger la grande pyramide de Nkouvu, de son vrai nom. Donc, nous revenons donc au niveau des pensées, car nous sommes ici dans le niveau économique. Nous avons dit que pour changer les mentalités ou des quatre clés du changement des mentalités, nous avons dit que nous allons explorer le plan de vue, sur le plan de vue intellectuel, sur le plan de vue politique, économique et social. Nous voilà encore, nous nous rendons compte au fait qu'il y a une progression arithmétique ou géométrique, c'est-à-dire que nous avons un plan, un algorithme, une carte qui nous amène directement de l'intellectuel au politique, au politicien, à la politique, à l'économie. Donc l'intellectuel, de par son rôle, comprenant le fonctionnement de la cité, de la société, cela d'injecter ses connaissances au niveau de ceux qui gèrent la cité, cela avec les outils scientifiques et technologiques, vont les appliquer au niveau de l'économie, et de l'économie va toucher directement le social des gens, et les gens pourront se rendre compte que tout au long de leur quotidien, il y a un changement. C'est de ça que nous allons nous inspirer pour au fait amorcer le changement dans nos sociétés. Mais tout commence par la pensée. Tout commence par ce que nous pensons. Et la neurologue Caroline Leaf insiste beaucoup dessus dans ses livres, dans ses conférences, que nous sommes ce que nous pensons. Et que lorsque nous ne changeons pas notre pensée, notre manière de comprendre le monde, la manière dont nous percevons les choses, eh bien, tout sera différent dans notre vie. Je me rappelle toujours cette émission que j'ai suivie une fois à la télévision avec une expérimentation qui avait été faite. Il y avait deux verres qui avaient été pris. Un verre bleu et un verre rouge. On a demandé à des personnes de l'audience, des spectateurs, de venir sur le plateau et de détecter lequel des deux verres était froid et lequel des deux verres était chaud. Alors, l'eau qui était dans le verre rouge a été détectée comme chaud par les participants, et l'eau qui était dans le verre bleu a été considérée comme froid par les participants. Et l'animateur de l'émission dira: non, vous êtes trompés, mesdames et messieurs. L'eau qui était dans les deux verres avait la même température. C'était de l'eau tiède, au fait. Il n'y avait ni eau chaude ni eau froide, ni eau d'eau froide. C'est simplement que la perception que vous avez eue de la couleur du verre qui a informé votre cerveau que l'eau était chaude et que l'autre eau était froide. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans certains restaurants, on vous donne des verres bleus. C'est pour que vous ayez la perception. C'est pour, au fait, entre guillemets, manipuler votre cerveau, c'est-à-dire que lorsque même la température du verre va baisser, votre cerveau croit que c'est froid parce que cette couleur bleue là est liée au ciel, au vent ou à la mer, au froid. Ça, au fait, manipule votre cerveau. Et le chaud, par exemple, les boissons chaudes vont être servies par exemple sur un verre chaud. Et il y a plusieurs expériences qui ont été menées dans le domaine de la neuroplasticité. Et par exemple, il y a un professeur qui a travaillé avec des amputés, car on s'est rendu compte qu'il y a des amputés qui ont des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Pour un neuroscientifique qui s'appelle Vilayanur Ramachandran, j'imagine que c'est peut-être pakistanais ou indien, si je ne me trompe. Alors, ils ont remarqué que il y avait des personnes, comme je disais, qui avait oui, il est indo-américain, en fait, je viens de vérifier, le monsieur est indo-américain, donc d'origine indienne, mais travaille ici aux États-Unis. Alors, il y a des personnes qui sont amputées en ce qu'on appelle les douleurs fantômes, et ce neuroscientifique a voulu faire une expérience où il mettait un miroir, une sorte de miroir, à côté de la main de ceux qui avaient perdu leur main, par exemple. Et vous savez que le miroir reflète un peu le contraire de ce qui est en face. C'est-à-dire que lorsqu'on mettait le miroir à côté de la main, donc il y aura comme une projection de la main de manière opposée. Donc il avait construit une espèce de boîte avec un miroir, ce qui fait que lorsqu'il mettait la boîte devant la personne, devant le patient, eh bien, c'est comme si la main se reflétait sur l'autre main. Donc, lorsque le monsieur regardait le miroir, c'est comme s'il y avait une autre main sur... Là, c'est comme si sa main existait. C'est comme si la main droite se projetait sur son bras gauche. Si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire. L'expérimentation est très bien détaillée. Si vous tapez plasticité neuronale et que vous cherchez le docteur Vilayanur Ramachandran, vous verrez cette expérience là. Donc, il a pu, les patients qui passaient par ce processus-là remarquaient que lorsqu'ils voyaient leurs mains, eh bien, les douleurs fantômes disparaissaient. Nous sommes ce que nous pensons. Donc, la neuroplasticité amène des informations très, très, très intéressantes sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Et c'est un domaine extrêmement fascinant que nous allons explorer tout au long de nos interventions dans notre podcast. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de comment est-ce que le cerveau peut être influencé par ce que nous voyons et que notre physique, notre corps peut en être même modifié, comme ces spectateurs qui ont vu leur corps, ce que leur langue percevait, changer par rapport à ce que eux pensaient. Tout comme le monsieur qui avait son bras coupé, rien qu'en voyant la projection de sa main sur son bras, ses douleurs ont disparu. Donc, la matière est influencée par l'esprit. La matière domine, l'esprit domine la matière. La matière est influencée par l'esprit. Et ça, c'est extrêmement fascinant de pouvoir se rendre compte que ce que nous pensons agit directement sur notre matière, agit directement sur notre corps. C'est vrai que, partant de là, il est facile d'aller dans des théories disant lesquelles, voilà, le bonheur dépend simplement de ce que nous pensons, nous pouvons changer notre vie par ce que nous pensons. Il y a beaucoup de théories et de livres qui pourraient remplir, je ne sais pas, tout un quartier avec ce genre de pensée-là. C'est dangereux, oui, aussi parfois, parce que parfois il y a beaucoup de charlatans aussi qui surfent sur la vague pour promettre monts et merveilles aux gens. D'où on a aussi les fameux effets placebo qui sont utilisés aussi par certains gourous et certains hommes de responsables de congrégations pour manipuler certaines personnes. Mais il y a aussi une réalité scientifique qui est liée à ça et qu'il faut utiliser avec prudence, sagesse et intelligence afin de pouvoir arriver à des résultats probants. Alors, nous voulons par exemple dire que cet aspect de perception est extrêmement importante, car lorsque nous ne maîtrisons pas ce que nous percevons, et bien nous sommes manipulés de tous bords. Par exemple, il y a ce fameux cliché, parce que nous sommes toujours dans l'aspect économique des choses, mais nous sommes dans l'aspect humain, car il faut d'abord une renaissance humaine, humaniste, à travers les humanités classiques, c'est-à-dire l'apprentissage pour modifier la plasticité de notre cerveau afin que nous devenions, redevenions des hommes et des femmes sans reproche, comme il était dit dans l'Antiquité, lorsqu'on voyait un Noir, on voyait un Éthiopien, on voyait un Égyptien, on disait que voilà, ces gens sont sans reproche, lorsque les Grecs voyaient. Et maintenant, les descendants de ces mêmes Grecs, à travers par exemple Transparency, comme on a dit, International, lorsqu'ils nous regardent, on dit voilà, le Nigérien est un escroc, on dit le Congolais est un escroc, il est l'homme le plus corrompu, on regarde les pays, les Africains, on dit qu'ils sont les pays les plus corrompus au monde, et les autres sont les plus adulés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais dit avant, nous n'avons pas la liste des pays les plus corrupteurs. Comme c'est étrange, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et nous disions qu'en Égypte ancienne, il n'y a pas de système carcéral, il n'y a pas de prison. Alors que les pays dits les plus développés ont le taux d'incarcération les plus élevés au monde. Et devinez qui remplit souvent ces prisons-là ? Eh bien, c'est les Noirs, curieusement. Donc, nous devons nous rendre compte que nous devons mettre en place une politique pour nous retransformer. Non pas pour plaire aux autres, non pas pour attendre que les autres nous classent parmi les plus sages, les plus intelligents. Non pas que nous allons faire ces choses pour les autres, mais nous allons le faire pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles. Et si les autres s'en rendent compte, tant mieux, mais nous n'allons pas utiliser cet indice pour nous mesurer. Mais nous allons le faire d'abord pour nous-mêmes. Et si les autres le perçoivent, tant mieux. Parce que nous savons que l'histoire africaine a été manipulée. Nous étions grands, nous étions puissants, nous étions nobles. Et l'histoire a été manipulée, a été tronquée pour nous manipuler. Donc nous n'allons pas le faire pour les autres, nous allons le faire pour nous-mêmes. Et si les autres en bénéficient, tant mieux. Et quand je dis bénéficier, dans le bon sens, non pas exploiter. Bénéficier, c'est-à-dire que vous devenez bon aussi en étant inspiré, mais pas exploité. Hein. Donc ne confondons pas les deux termes. Donc en parlant de perception, on dira par exemple que le noir est paresseux. Et beaucoup de gens reprennent ça. Les noirs sont paresseux, les noirs sont paresseux, les noirs sont paresseux. Mais il est intéressant de voir que les autres communautés, eux, parlent de procrastination. Les autres, tout le monde se traite de paresseux. C'est juste que les autres communautés utilisent un mot beaucoup plus élitiste, beaucoup plus, comment dire, intellectuels, ils disent pas que, oh non, les Chinois sont paresseux. Ils disent pas ça entre eux, oui, dans les médias, on dit pas, oh, les Blancs sont paresseux. Non. Les médias contrôlés par les Occidentaux ne disent pas, oh, nous, les Occidentaux, nous, les Blancs, nous sommes paresseux. Non, ils ne le disent pas. Ils disent, il y a un problème de procrastination. Entendez? Procrastination. Car je suis aussi auteur-écrivain à mes heures. Et dans la communauté littéraire des écrivains, on a tous ce même problème. Tout le monde, que ce soit blanc, noir, chinois ou ailleurs, tout le monde dit toujours, mais comment lutter contre la procrastination? Et où les écrivains ont tout ça en commun, disant que voilà, ah, par exemple, je déteste écrire, mais j'adore quand c'est fait. Par exemple, le frère de Christopher Nolan dit souvent que, Jonathan Nolan, il dit que je déteste écrire, qui est blanc. Il dit, je déteste écrire, mais j'adore quand c'est fait. Voilà. On va pas dire que le mec est paresseux parce qu'il a écrit des scénarios qui ont rapporté des milliards au box-office. On va pas dire que ce monsieur est paresseux. Mais il dit que j'aime pas écrire. Donc il reconnaît sa procrastination, mais il dit que j'aime quand c'est fait. Et beaucoup de gens disent que pour se motiver à écrire, il faut parfois, comme dans le livre de la puissance des habitudes, The Power of Habits, dire que le meilleur moyen de se motiver, c'est de créer une récompense après que l'effort soit fait. Ce monsieur a écrit un livre dans une société qui est... parce qu'on dit toujours que les Américains sont des grands travailleurs, mais pourquoi il y a toujours des livres de développement personnel qui sortent chaque année et pour motiver les gens? Si ces gens étaient motivés congénitalement, génétiquement ou naturellement, c'est toujours un travail. C'est que toutes les sociétés reconnaissent que la paresse est un problème. Dans les sociétés occidentales, comme je l'ai dit, on utilise un mot élitiste, on dit il y a la procrastination. Et que ce soit dans toutes les communautés, chez les étudiants, chez les écrivains ou ailleurs, on parle de procrastination. On dit que même chez les Blancs. On dit ça, on parle de ça, qu'il y a la procrastination des étudiants. J'étais dans une université américaine et il y a ce problème. Mais quand on est dans la communauté noire, on se dit, ah voilà, les noirs sont paresseux, les renois sont paresseux. Alors qu'on oublie et on veut toujours idéaliser chez les autres. On dit que chez les familles des blancs, ça se passe comme ça, eux, ils sont comme ci, comme ça. On a des mythes, on les idéalise, on idéalise ces familles. Alors que ce n'est pas la réalité. Nous tous, nous avons les mêmes problèmes. Simplement, évidemment, nous n'avons pas la même expérience parce que dans certains groupes sociaux, ça a été stigmatisé, ça a été beaucoup plus accentué afin de pouvoir avilir ces populations. Car, je répète, que lorsque l'on regarde qui a construit les grandes pyramides, on sait très bien que ce sont des Africains noirs. Et pourquoi ces Africains noirs ont été pris donc pour aller. Et c'est la raison pour laquelle ces Africains noirs ont été pris pour aller travailler dans les champs de coton. Pourquoi on n'a pas pris les Chinois? Pourquoi on n'a pas pris les Arabes? On a pris les Africains parce qu'ils savaient que c'était des grands travailleurs. Mais on a ajouté le mythe du grand paresseux. Alors que dans la même situation occidentale, on parle quoi? On parle de procrastination. Et maintenant, on parle encore plus de. L'effet des millennials, c'est-à-dire la génération de ceux qui sont, je crois, nés en 2000 jusqu'à présent, hein, la génération des réseaux sociaux, on dit que les jeunes maintenant sont des millennials. Ceux d'avant étaient, je crois, les baby boomers, ou la génération XY, c'est quelque chose comme ça. Donc, on me dit que tout le monde, ils sont des gens qui se sentent entitled, c'est-à-dire qu'ils attendent que tout leur soit donné, et c'est attribué à tout le monde, blanc, noir, asiatique, on dit que la nouvelle génération des réseaux sociaux veulent la faciliter. Et c'est à donner à tout le monde. On utilise simplement un terme très très intellectuel pour dire au fait que ah il y a la procrastination et où ces gens se sentent qu'ils sont entitled. Excusez-moi, bon, je suis plus habitué à l'anglais, donc ces mots, le mot me revient plus en anglais. Donc les gens veulent qu'on leur donne quelque chose. Mais la communauté noire, les gens se renferment. Oh non, nous simplement, oh les noirs sont paresseux. Et on veut idéaliser les autres quand on ne connaît pas le discours qu'il y a chez les autres parce qu'on n'est pas à la table des autres, donc on ne sait pas ce que les autres disent. Mais c'est un problème qui est chez tout le monde. Sauf qu'on parle de procrastination, comme j'ai parlé chez les écrivains. La plupart, beaucoup d'écrivains dans la communauté, chez les blancs même, on parle de procrastination, c'est-à-dire qu'on a du mal. Et moi, je suis écrivain. C'est pas facile de toujours se motiver à aller écrire. On parle de procrastination. La plupart des grands écrivains sont des gros procrastinateurs, des paresseux, hein. Et Bill Gates même qui disait que si vous me demandez de donner un travail à un paresseux ou comment dire, un travailleur vraiment, je sais pas moi, dur comme fer, je vais le donner à un paresseux. Pourquoi? Parce que le paresseux va me coder un programme qui sera beaucoup plus facile à faire. Il y aura moins de code, moins de lignes. Et ça sera beaucoup plus facile à utiliser. Je ne veux pas donc engager un paresseux qui le fera, un paresseux mais intelligent. Donc, la paresse, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. C'est une tare qui existe chez tout le monde et tout le monde doit la combattre. Et nous devons arrêter avec cette, comment dire, cette habitude-là de dire les noirs sont paresseux. Pourquoi? Parce que ça va alimenter notre subconscient et on va le transmettre à nos enfants. Et il y a toujours des mythes qui vont nous suivre comme ça et ça nous colle à la peau. Et nous n'avons pas de politique, de livre, justement, qui sont en train de dire comment battre la procrastination, comment aider nos enfants, surtout dans la communauté noire africaine, à viser l'excellence. Parce que nous restons simplement calés sur des préjugés. Ah, les noirs sont paresseux, les noirs ne sont pas intelligents, les noirs ne savent pas faire ceci, les noirs ne savent pas faire cela. Nous restons dans ces préjugés et nous construisons des chapelles, pour ne pas dire des pyramides, autour de ces concepts-là, de ces choses-là. Et voilà pourquoi nos civilisations ne vont pas en avant. Et voilà pourquoi les chefs d'entreprise n'ont pas confiance en leurs travailleurs. Et dans la communauté aussi des entrepreneurs, c'est ce qui se passe. Il y a un entrepreneur célèbre au Côte d'Ivoire qui s'appelle Marcel Zadi Kessi, qui a écrit un livre là-dessus sur la gestion des sociétés en Afrique, et qui est un grand entrepreneur, hein, qui était à l'époque, je pense bien, chef du patronat ivoirien, et aussi chef de l'entreprise, je crois, du courant d'électricité, qui gérait le courant d'électricité en Côte d'Ivoire. Donc un très grand entrepreneur, un très grand, en tout cas, chef d'entreprise, grand patron, qui a écrit un livre sur son expérience et qui a donné des conseils très, très pragmatiques pour les entrepreneurs sur le continent. Et il disait qu'il est très difficile de faire percevoir aux salariés africains que de ses propres efforts que provient les bénéfices de la compagnie. Ça, c'est très difficile de faire comprendre ça aux Africains. C'est que souvent, la plupart des entrepreneurs se plaignent qu'il est très difficile de faire comprendre aux salariés que c'est de son travail, que c'est de sa performance que vient le salaire. Et on en a fait un fait typiquement africain, mais il est tout à fait mondial. Henry Ford disait que ce n'est pas moi qui paye les salaires, c'est le client qui paye les salaires. Donc ne pensez pas que c'est moi qui dois vous payer, qui dois vous augmenter, c'est votre productivité qui fera que je peux vous augmenter. Et on en a fait un fait exclusivement africain pour montrer que les autres sont parfaits et nous n'avons que des problèmes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et il y a aussi un entrepreneur que je suis beaucoup, Gary Vaynerchuk, qui, l'une de ses conférences, disait que beaucoup d'entrepreneurs se plaignent à lui, disant que et des entrepreneurs blancs occidentaux se plaignent à lui, disant que, ou d'autres de asiatiques même, se plaignent à lui en disant que ils attendent beaucoup de choses de leurs travailleurs, de leurs salariés, mais qu'ils ne reçoivent pas la même énergie en retour de leurs salariés. Et Gary qui répond que vous ne devez pas vous attendre à ça, vous devez au fait émuler, vous devez au fait vous-même être incarné cette énergie-là et améliorer tout simplement aussi votre manière de votre recrutement, améliorer qui vous engagez, la personne qui va recruter les gens et les personnes que vous allez recruter. Vous ne devez pas attendre que les gens vous suivent aveuglément dans tout ce que vous faites. Vous devez les inspirer et vous devez vous-même aussi être beaucoup plus incisif dans la manière dont vous choisissez au fait vos personnes, dont vous recrutez votre personne. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc vous voyez que ces problèmes sont aussi chez les autres, mais nous idéalisons. Oh, nous sommes comme ça, les autres ne sont pas comme ça. Alors que les autres utilisent simplement d'autres termes pour exprimer les mêmes problèmes que nous avons. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas la même histoire, mais les problèmes sont les mêmes partout et l'être humain, bien qu'il y ait des différences culturelles, a les mêmes problèmes et on doit les attaquer. Mais lorsque nous refermons sur nous-mêmes, pensant que ce sont des problèmes qui sont simplement sur nous-mêmes, que nous sommes par exemple maudits, que nous avons tel problème, eh ben nous sommes simplement en train de faire le jeu des autres et nous sommes en train de nous détruire par nous-mêmes. Voilà pourquoi Caroline Leaf, dans mon introduction, commençait par ces mots, par ces phrases qui disent que nous devons changer notre perception, que notre mind, notre pensée, notre réflexion peut changer notre cerveau. C'est ainsi que nous pourrons avoir le résultat sur le changement des mentalités en nous intéressant justement à la plasticité neuronale, qui sont des termes génériques qui décrivent en fait les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier lors des processus de neurogénèse dès la phase embryonnaire ou lors de l'apprentissage. Je sais, c'est une définition un peu éléphantesque et même super longue, mais on comprendra tout simplement que c'est cette capacité-là à pouvoir changer les habitudes de notre cerveau par ce que nous apprenons. Et qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons justement les humanités classiques africaines. Car cela va non simplement renforcer le moi intérieur, mais aussi le nous, c'est-à-dire l'esprit de groupe, que ensemble nous pouvons construire, ensemble nous pouvons avancer, ensemble nous pouvons changer quelque chose. C'est lorsque nous aurons compris ces choses que nous pourrons réellement changer notre économie. Car c'est bien beau de vouloir faire du capitalisme, mais quelle est l'image et la perception que nous avons de nos troupes? Voulons-nous faire de notre capitalisme une sorte de mode de production euro-asiatique où c'est l'esclavage, où l'homme n'est qu'un bien meuble que nous allons utiliser et que nous pouvons jeter comme nous voulons et simplement vouloir créer la matière pour la matière. Nous avons dit que c'est l'esprit qui influence la matière. Alors, quel est notre état d'esprit? Comment pouvons-nous changer notre matière, nos minerais, le coltan, l'or, le diamant? Quelle est la finalité de cette transformation-là? Quel est l'état d'esprit que nous avons afin de pouvoir manipuler, afin de pouvoir changer la matière? Ce que nous sommes, notre corps d'abord, notre cerveau, et ensuite la matière extérieure qui est sous le sol. Et la pensée africaine était aussi dans la transformation, car on sait que dès les origines, la pensée africaine est dans la transformation de la matière. Voilà pourquoi, par exemple, le mot chimie, je l'avais dit, est issu de alchimie ou kami, c'est-à-dire kemiou, c'est-à-dire kem, le nom de l'Égypte ancienne, noir, parce que la chimie a commencé avec les pierres agglomérées. Nous l'avons parlé dans notre podcast sur la grande pyramide. Donc, chers amis, nous nous arrêtons là. Nous allons reprendre plus tard. Merci beaucoup. Nous attendons vos feedbacks sur mizele48@gmail.com pour vos suggestions et pour vos encouragements aussi. Donc, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. À plus.